Qui suis-je ? Rien qu'une femme. Ma vie fut toute banale. Elle a été tissée d'ennuis nombreux, de deuils, non d'aventures et de miracles comme la vôtre. Je crains que son récit ne vous plonge dans la tristesse. Sans doute même serez-vous fâché de l'écouter. Car bien que je ne me sente point le droit de vous contredire, et que je n'ose prétendre en savoir assez long pour opposer mes 20 discours à vos paroles pleines de sagesse, sur un seul point il se pourrait que ma propre expérience me force à faire semblant de disputer avec vous. Sachez donc que toute ma vie n'a été habitée que de ce seul désir, user de mots pour voir clair. Or, maintenant que je suis vieille, il me semble justement que j'en sais moins qu'autrefois. Comme si... Pardonnez-moi, j'oubliais vos leçons. Une histoire commence par le début, n'est-ce pas ? En supposant que quelque chose comme un début existe, les uns disent que le temps commence avec Adam, d'autres le jour où Dieu créa le monde. Est-ce là le début ? Qui sait si le temps ne commence pas pour l'homme avec la chute, le jour où il a dû quitter le paradis ? Ou bien maintenant ? Aujourd'hui même, en cet instant ? Où sommes-nous ? Où allons-nous ? D'où venons-nous ? Moi-même, d'où suis-je ? Je me souviens de mon enfance. Ou plutôt, je ne m'en souviens pas. C'est quelque chose d'extrêmement lointain ou d'extrêmement proche. Là, soudain, quelque chose d'absent qui tout à coup existe, puis disparaît. Une sorte de... Mais je m'égare. Je vous prie de me pardonner. Je dis vague. Sans doute est-ce l'âge ou la fatigue qui m'embrouille. Cela me prend soudain. Cela me prend de plus en plus souvent ces derniers temps, surtout la nuit, depuis que j'ai cessé d'écrire. Les mots, n'est-ce pas ? Les mots soudain comme des cailloux, je vous l'ai déjà dit. Les mots comme des cailloux au fond de ma bouche, vous m'entendez ? Pardonnez-moi, il faut que je vous raconte ma vie. Je vais essayer. Empêchez-moi de divaguer si je recommence. Je me souviens... Non, pas ainsi. Ce n'est pas de moi qu'il faut parler. C'est de l'histoire d'une autre femme nommée Christine. Une étrangère. C'est de l'histoire d'une inconnue. Appelons-la Christine. C'est cela. Christine, fille de Thomas de Pisan, dit de Bologne, médecin et astrologue du roi Charles V. Là, je commence. Imaginez ce paradis sur terre, cet âge d'or. C'était avant les pestes, avant les guerres, quand le laboureur récoltait ce qu'il avait semé. Vous rappelez-vous comme les fontaines déversaient du vin au carrefour le jour où le roi reçut l'empereur et le sultan de Babylone ? Ce n'est pas pour rien qu'on lui donna le nom de Charles le Sage. À cette époque, les arts et les sciences fleurissaient. C'était avant que de mauvais génies, sentant le bouc, n'eussent profané le nom de la rose et son parfum. Dieu voulut que mon enfance, ai-je bien dit mon enfance, se passât comme un rêve heureux. Imaginez un songe dans un songe, une musique légère. Il me semble que je l'entends encore, oui, c'est bien elle. Se peut-il que rien de notre passé ne soit perdu ? Que tout ce qu'autrefois nous avons vu, senti, touché, que ce sentir ou ce toucher le plus fugace, ombre du nombre, soit demeuré absolument intact. Où ? Pourquoi faire ? Au fond de quel puits secret ? Dans quel espoir ? Est-il vrai que je suis la même ? Qu'il y a quelque part une petite fille qui m'attend, moi, une vieille femme, qui attend que je vienne vers elle pour m'embrasser ? Me consoler. La mort ne m'effraie pas. Je la souhaite. Peut-être suis-je déjà morte aux yeux de Dieu. Peut-être en lui, toutes nos pensées, tous nos instants, tous nos visages se trouvent-ils déjà réunis comme les images peintes dans un livre. Pourquoi faut-il pourtant que je n'en puisse lire le texte ? Que les mots de l'histoire, l'histoire de ma vie, au moment où j'essaie de m'atteler à la tâche, me paraissent soudain plus obscurs que de l'hébreu, écrit dans je ne sais quelle langue d'après Babel, confuse, remplie de hiéroglyphes indéchiffrables. Hélas, Anthelme, je vois maintenant que ma pauvre mère avait raison, qui souhaitait que sa fille ne s'occupât que de Phylas au lieu d'apprendre la philosophie. Gerson me corrigera si je me trompe. N'est-ce pas Platon qui nous enseigne à persévérer dans l'étude, afin qu'en nous rendant épris des beautés de là-haut, elles nous rendent semblables à celui qui nous fit ? Je me souviens d'avoir un jour, dans mon enfance, vu un homme danser sur une corde tendue des tours de Notre-Dame de Paris jusqu'au palais. D'en bas, où je me tenais au milieu de la foule, serrant la main de mon père de crainte de me perdre, je le voyais sauter, jongler, faire mille tours plus merveilleux les uns que les autres. J'entendais aussi les gens autour de moi dire de lui qu'il n'avait jamais eu son pareil en ce métier. Or soudain, sans que rien ne le laissât prévoir, l'homme tomba. J'interrogeai en vain mon père sur les raisons de cet accident. Mais le lendemain, le roi à son tour lui posa la même question. « Les astres en ont ainsi décidé, » dit mon père. « Oui, mais ce que disent les astrologues est-il certain ?»« Assurément, notre science est la plus haute de toutes. »« La plus haute, » répondit le roi. « Nous y voilà. Comment faites-vous pour être sûr de ne pas tomber ?»« Et que répondit votre père ?» demanda Isalguier. Il ne répliqua point, dit Christine. Mais la vie se chargea de répondre à sa place. L'année qui suivit mon mariage, j'étais moi-même encore presque une enfant, la chance tourna. La reine, sa fille, le pape Grégoire venaient de mourir. Puis ce fut le tour du connétable du Guesclin, enfin du roi. Mon père, le philosophe qui n'avait pas prévu sa ruine, tomba bientôt victime de cabale. Partout dans le monde, on vit des guerres et des émeutes éclater. La Bohême, l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre, le Midi et les Flandres, la Halle même s'embrasèrent. Dans ce grand trouble universel, le malheur ne m'épargna point. Mon cher mari, mon seul amour, Étienne Castel, notaire du roi, mourut de la peste alors qu'il accompagnait le jeune Charles VI à Beauvais. Aussitôt, un flot de tribulation vint m'emporter. Imaginez une jeune femme chargée d'enfants, d'une mère, d'une nièce, obligée de se battre contre l'univers entier pour faire admettre les droits de sa famille. 15 ans de procès, les chicanos, les maquignons, les faux témoins, les mangeurs d'hommes, des illettrés, des sots, des brutes pour qui toute femme est une souillant, m'insultant parce que je sais lire, les racontars, les calomnies, les manigances, les guet-apens, des vide-goussets qui viennent chez moi, enfoncent les portes, saisissent les meubles, les tableaux, les coffres précieux, les tentures et jusqu'aux livres de mon père. Me voici dans une maison vide, entre des murs nus, grelottant sous mon manteau de petit gris qui s'effiloche, pauvre comme Job. Et comme Job, mes amis m'ayant tous déserté, il faut encore que je supporte les discours des consolateurs. Le monde entier défile dans ma chambre. Mon tas de fumier est devenu une attraction. Tous me viennent voir. Les sots, les sages, les veufs lubriques qu'attire mon reste de jeunesse et les prêteurs sur gage de bons conseils. À qui me vouer ? Le roi lui-même est devenu fou. Je n'ai plus de livres. Dieu est bien loin. J'ai beau prier, il ne répond pas. Sans doute a-t-il des cas plus urgents à régler que le sort d'une veuve de secrétaire. Il faut le comprendre. De désespoir, je prends une plume, car on m'a laissé une plume, ainsi que de l'encre et du papier. Et voilà que je me mets à écrire. Qu'ai-je à dire ? Je n'en sais rien du tout. À qui m'adresser ? À personne. Pourquoi exposer mes griefs si nul ne m'écoute ? Une chanson. Une ballade sur le temps passé. deux ou trois rondeaux, quelques virelets, telles furent les premières petites choses auxquelles je m'essayais. Un ogre, mon cher Anthelme, un ogre ici présent rencontra par hasard ces enfants de mon esprit, et sans que j'eusse le temps de les défendre, les croqua. Bien pis, il m'arracha ce que je tenais dans mes bras et sans me consulter, les mit dans sa gibecière, disant qu'il les dégusterait plus tard en compagnie. Dès lors, je ne connus plus de repos. Le lendemain, toute la ville de Paris dévorait mes vers. Le duc et Valentine d'Orléans en raffolaient. Barbazan, tel est le nom de l'auteur de ce forfait, n'eut de cesse de me convaincre que j'étais appelée à séjourner en compagnie d'Homère sur le Parnasse. L'idée ne me vint pas que le roi des poètes avait peut-être besoin, comme tout roi, d'un bouffon. Naïf comme je l'étais, je le crus sur parole et finis par me prendre vraiment pour ce qu'il disait. Je passai tout mon temps à écrire, nuit et jour. Comme à Job, une fortune nouvelle me sourit. Mes procès prirent fin, car les juges mêmes comptaient maintenant au nombre de mes lecteurs. Les jours et les années s'écoulaient. Sur ma table, les volumes sortis de mon esprit inlassable s'accumulaient au fil du temps, pierre après pierre, comme monte un mur. Heureux sauvage à qui le nom de ces ouvrages ne dira rien. Épargnez-moi de vous en citer les titres par trop connus. Le mur devint rempart, le rempart une tour, la tour une forteresse toujours plus haute. Plus haute. Que n'ai-je repensé parfois aux danseurs de cordes et aux paroles du roi ? Je veux que naissent de toi de nouvelles œuvres, écrivais-je, qui au temps à venir et perpétuellement présenteront au monde ta mémoire devant les princes. Dans la joie, tu enfanteras de ton esprit, comme la femme, quand elle entend le cri de l'enfant, oublie son mal, tu oublieras le travail et le labeur en entendant la voix de tes volumes. Cependant, à l'abri de ma tour, peu à peu, ces voix se mirent à couvrir les bruits du monde. Ou pour mieux dire, n'ignorant rien des événements qui s'y passaient, j'en percevais comme un écho atténué, un doux reflet. De même qu'un monstre de théâtre n'est que l'image d'un vrai monstre, et que notre effroi, à le voir entrer en scène, est d'un autre ordre que celui que nous éprouverions si nous le rencontrions dans la réalité, car il s'y mêle du plaisir, ainsi les choses de la vie extérieure ne m'atteignaient qu'apprivoisées par le langage, transfigurées, semblables aux ombres qu'un montreur fait apparaître sur un écran. Sait-on ce qu'est un mot ? Un être ou son absence ? Un bruit, un souffle, une ombre, un fantôme, un remords, un espoir, une attente, une fenêtre, un gouffre. Mensonge ou vérité ? Qui peut le dire ? Le disant, nous sommes déjà dedans. Éclairer la lumière ne se peut. Seule la nuit peut nous apprendre quelque chose sur elle, en l'éteignant. Pourquoi Judas a-t-il trahi Jésus ? Pourquoi notre Seigneur est-il mort sur la croix, si ce n'est pour que l'homme comprenne ces paroles qu'il avait écoutées jusque-là sans les entendre ? Soudain, dans la retraite que je m'étais construite, j'entendis de grands coups de bélier frapper les murs. Satan parle à chacun dans son langage, au rustre en patois, au curé en latin, au sourd avec des gestes et des grimaces. À moi, il se présenta déguisé en poète, tenant une rose et un livre à la main. Vous connaissez l'ouvrage de Guillaume de Loris dont nos aïeux et notre enfance se délectèrent. Sans doute, hélas, n'ignorez-vous pas non plus quelle suite détestable Messire Jean de Meung donna un peu plus tard à ce poème. Discours verbeux, froides allégories de cuistre, basse calomnie. L'amour humain réduit au rang des ébats des porcs et des truies. Sorbonnerie et cochonnerie riment ensemble. C'est cette ordure, pompeusement brandi comme un drapeau, que notre diable avait l'audace de venir promener sous mes fenêtres. Je descendis de mon donjon, baissai le pont-levis. Plus personne. Un livre était posé devant ma porte. Je le pris et, l'ayant enveloppé d'un mouchoir, tout en me bouchant le nez, le lus d'un trait. Je vous épargne d'en connaître le contenu qui, peu importe. Qu'il vous suffise de savoir que jamais, au monde, on ne vit autant d'insultes proférées contre les femmes, autant de mensonges. Je pris la plume, et n'écoutant que mon indignation, partit en guerre contre cet homme qui se flattait de nous haïr. Il répondit, je répondis moi-même à sa réponse, et comme l'autre ne trouvait déjà plus d'arguments pour me confondre, il appela toute la Sorbonne à la rescousse. Il faut vous dire, Anthelme, que l'université n'est plus aujourd'hui telle que vous l'avez connue. On n'y étudie point, et on pérore. On n'y dispute plus sans chercher par avance à faire condamner son adversaire. C'est à la Sorbonne, disent ceux qui ont la chance d'y enseigner, que Dieu a confié la tâche de gouverner la chrétienté. C'est au point qu'il s'en faut de peu qu'on y installe le bûcher et qu'on élève le bourreau de Paris au rang de recteur. Ainsi donc, je ne tardais guère à sentir l'odeur du fagot. Aux amabilités succédèrent les critiques, aux critiques les insultes, aux insultes les menaces. Je me voyais déjà contrainte de porter le masque qu'on met sur la tête des sorcières en Autriche, afin de bien montrer au tribunal qu'elles sont au diable. Quand s'éleva dans la Sorbonne même, seule contre tous, une grande voix qui prenait ma défense. Cette voix, Anthelme, cette voix clamant dans le désert n'était autre que celle de notre ami Gerson. Elle parla, tous se turent. Elle se tut, tous s'enfuirent. Je goûtai ma victoire. La rose refleurit. À l'hôtel d'Orléans, on fêta mon triomphe. Les affreux rats de cave qu'avait chassé le lion se terraient dans leur trou, épouvantés. Hélas! Pourquoi faut-il que les cœurs les plus nobles soient sans défense en face des ruses des mesquins? Esprit du miséreux et tortueux, pervers. Son attention ne se relâche jamais. La nuit, il veille et le jour, il fait semblant de dormir. Jamais il ne s'avoue vaincu ni ne renonce à prendre sa revanche. Vous l'oubliez, mais lui ne vous oublie jamais. Le duc et Valentine, moi-même, même vous, Gerson, faut-il que nous ayons été si jeunes, si naïfs pour n'avoir su qu'il n'est pire haut que celle qui dort? Voyez ces ombres. Dans la nuit brune, elles avancent à pas de loup. Au nom du roi, Louis d'Orléans les suit, car on l'appelle. Rue des Poulies, 20 hommes logés à l'image Notre-Dame se précipitent sur lui et le massacrent. Mort, ce n'est pas assez. L'homme est l'image de Dieu. C'est ce témoin qu'il faut détruire. Ce corps sans vie, cette dépouille, lui ôter toute forme humaine reconnaissable. On tranche son poing. Sa tête éclate, sa cervelle jaillit. On le démembre. Vraiment, s'il est un homme qui mérite bien son nom, c'est le prince de ce monde qui a commandé ce meurtre, car il n'a peur de rien ni de personne, pas même de Dieu. Maintenant, ce qu'on a fait lui suffit-il? Non. Après le corps, c'est l'âme de son ennemi qu'il faut souiller. Voici bientôt que les langues se délient comme les bourses chargées de récompenser la calomnie. C'est Louis, dit-on, qui, la nuit au bal des Ardents, a mis le feu aux habits des danseurs avec sa torche. C'est Louis qui a rendu le roi fou en lui faisant boire dans du vin de la poudre d'os et des cheveux de pendu. Valentine est morte, Montagu torturé et décapité. Le carreau de la halle s'insurge. Paris est aux mains des tueurs. Les écorcheurs des abattoirs et les docteurs de la Sorbonne proclament la république de la boucherie universelle. Mais toi, Pendant ce temps, Christine, à quoi songes-tu? Qu'écris-tu à longueur de nuit? De qui espères-tu encore te faire entendre? Comme Jonas, tu es seul dans le ventre de la baleine, seul avec un secret qui te dépasse, ta vocation. Tu songes, s'il existait seulement encore sept chevaliers dans tout le royaume, sept chevaliers comme ceux de mon tendre, prêts à relever le défi, s'il existait de par le monde quelques hommes qui ne se connaissent point, peut-être sont-ils même ennemis par naissance, peut-être ne sont-ils pas chevaliers par le rang, la seule noblesse vraie n'est-elle pas celle du cœur? Oui, te dis-tu dans le ventre du poisson, au fond de ton puits, car il y a belle lurette que les murs de ta tour ont cessé de monter. Ils s'enfoncent. Chaque mot que tu écris approfondit ton deuil et ta tristesse. S'il existait, oh, rien de tangible, rien de visible, rien de probable, rien qu'un espoir de te faire entendre de ces étrangers qui s'ignorent, afin que ta voix soit la lueur qui les fasse se reconnaître. Sans nul mérite pour elle-même, sans force, vouée à s'éteindre, qu'elle soit pareille à l'étincelle dont personne ne garde le souvenir et qui pourtant allume à seule un grand brasier. Écris ainsi. Ne te retourne pas sur le réel. Va de l'avant, toi qui es femme, que ton esprit donne le jour après ta chair. Invente un monde. Fais reculer partout la mort au nom de l'amour. Voilà, Anthelme, les choses que j'agitais dans mon délire, tandis qu'autour de moi tout s'effondrait. La France, la chevalerie, la chrétienté entière, tout ce qui fait que le monde est monde et non un rien, la course des planètes, le droit, la courtoisie, le respect des usages anciens et des raisons qui régissent le commerce des nations et des gens. L'ordonnance des idées dans l'esprit, celle des mots qui s'enchaînent dans la phrase, suivant la même logique qui préside au ballet des étoiles. La musique des sphères, l'ordre du beau langage qui relie par des fils invisibles tous les êtres et les maintient ensemble au cœur de Dieu. Aveugle, j'étais aveugle. Que n'ai-je compris à temps qu'il n'y avait pas de raison que le déluge m'épargne et que le croyant voir autour de moi, sa fureur m'avait déjà emporté. Mon ouvrage, au lieu d'être une nouvelle arche de Noé, ne ressemblait qu'à un vaisseau fantôme. Il était vide. Seul à son bord, croyant le diriger moi-même, je m'égarais. Un faux orgueil me faisait croire que j'en tenais le gouvernail alors que la folie du temps gonflait mes voiles. Qui donc étais-je pour m'être arrogé le droit de sauver le monde? N'eussais-je pas dû plutôt, au lieu de me croire élu, rester à m'occuper de Phylas, aider les pauvres, m'enfermer pour le reste de mes jours dans quelque couvent et prier Dieu? J'étais comme le danseur de cordes de Notre-Dame, monté trop haut. Même mon malheur, même ma tristesse, même cet échec auquel je courais avait à mes yeux une sorte de grandeur qui me flattait. Soudain, m'attendant au naufrage, tout s'arrêta. Un calme plat engourdit mon esprit. Les mots me fuirent. Il me sembla, non que je n'arrivais plus à dire ce que je voulais, mais que je n'avais plus rien à dire du tout. Ainsi suis-je moi aussi tombé de haut, comme le danseur. Depuis ce jour, je ne peux plus écrire. Je n'ai plus d'histoire. Celle que vaille pour n'être pas en reste, je vous ai racontée, s'arrête ici comme des traces de pas dans le désert. Vous me voyez, on ne peut pas dire que je sois triste. Je ne suis point. Je demeure dans des sortes de limbes, dans l'indistinct, à égale distance du ciel et de l'enfer, là où résident les âmes de ceux qui n'en ont pas ou n'ont pas eu le temps d'en acquérir. Je ne m'ennuie pas. On pourrait même envier mon sort, je suis comme morte. Je vis avec mes souvenirs comme un enfant au milieu de ses jouets. Toutes les choses que j'ai vécues sont à ma portée. Je les regarde une à une. Je les prends dans ma main, je les observe. Puis je les range l'une après l'autre dans leur boîte. Ainsi va le monde. Pour moi, il n'avance plus. Chaque jour est comme une goutte de pluie qui tombe sur une vitre, pareil à toutes les autres gouttes. Vous disiez, cher ami, qu'il n'y a point d'histoire qu'on ne puisse raconter et que toutes sont infinies. Voyez, la mienne s'arrête. Maintenant, elle est achevée. Comment le plus grand conteur du monde pourrait-il la continuer ?